Alors cette troisième ou cette quatrième leçon sur le Notre Père, cette méditation, si vous voulez, nous permet d'aborder cette troisième demande. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui nous fait penser à cette parole de Jésus à Gethsémani, quand il s'adresse au Père, « Abba, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, que ça ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » De fait, si nous entrons dans cette demande avec cette parole du Christ, nous voyons bien que il y a une certaine difficulté à entrer dans cette troisième demande, parce que si nous la comprenons bien, vous voyez, nous voyons que c'est une demande par laquelle nous désirons unir notre volonté à celle du Seigneur, à celle du Christ durant sa vie. Quelle a été la volonté du Christ? Il le dit dans l'évangile de Saint Jean, il le répète d'ailleurs plusieurs fois, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. » Et nous constatons qu'il y a en nous des résistances à cette union de volonté. Saint Paul le dit un petit peu plus loin dans ses épîtres, Je vois le bien qui est à faire et je ne le fais pas, et je fais le mal que je ne veux pas. » On constate en nous qu'il y a des résistances, on constate en nous qu'il y a des oppositions, parce qu'on constate en nous des fractures qui sont en quelque sorte la trace du péché originel. Quand vous regardez l'homme, quand vous regardez la personne humaine, il y a en elle des oppositions entre les désirs les plus spirituels et les désirs les plus charnels. Les désirs physiques, les désirs de l'affectivité, les désirs de la volonté. On voit bien que notre unification intérieure, l'unité de notre personne n'est pas si facile. Alors si déjà nous-mêmes nous découvrons en nous une désunité intérieure qui est la trace du péché originel, à combien plus cette demande d'union à la volonté d'un autre qui est Dieu nous est difficile. Hein, c'est Pascal, Blaise Pascal, ce grand penseur qui disait il n'est pas étonnant que Dieu soit mystérieux à l'homme, puisque l'homme est déjà mystérieux à lui-même. Je reprends un peu ses pensées. Et donc, prononcer cette demande, vous voyez, nous coûte. Cette demande montre qu'il y a vraiment des efforts à faire. Je voudrais partir de, comme je le fais, de deux petites paroles. Une parole de saint Augustin d'abord. « Même de ceux qui ne font pas ce qu'il veut, Dieu fait ce qu'il veut. » Même de ceux qui ne font pas ce qu'il veut, lui, Dieu fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que, comme on l'a découvert la dernière fois, la volonté de Dieu se fait, le règne de Dieu arrivera. Dieu, parce qu'il est Dieu, fait advenir son règne. Et même ceux qui résistent à sa volonté, Dieu en fera ce qu'il veut. Cela rentre dans ses desseins. Donc vous voyez, nous entrons vraiment dans un mystère. Une deuxième phrase qui vient de saint François de Sales. Saint François de Sales a beaucoup écrit sur le grand mystère qui est contenu dans cette demande, qui est celui de la providence divine. Parce que unir notre volonté à la volonté de Dieu, c'est accepter ce que Dieu veut, c'est accepter le plan de Dieu sur nous, c'est donc faire confiance à sa providence. Et voilà ce que dit saint François de Sales, c'est dans le traité de l'amour divin. Vous avez deux chapitres dans le traité de l'amour divin, le chapitre 8 et le chapitre 9, qui sont remarquables. Hein. Vous retrouvez ce petit traité de l'amour divin réédité aux éditions Mediapol, ou Mediaspol, je ne sais jamais trop comment on prononce, en format livre de poche. « Seigneur, pourvu que ma volonté demeure droite et ferme en vous, et c'est là qu'est la pointe, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Si vous voulez que je sois dans les ténèbres, soyez béni. Si vous me préférez dans la lumière, soyez encore béni. Si vous daignez me consoler, soyez béni. S'il vous plaît de m'affliger, soyez toujours également béni. » Alors effectivement, arriver à cette attitude de soumission confiante à la volonté de Dieu, demande certainement de notre part un travail sur notre volonté propre. Au fond, c'est ce qui est au cœur de cette demande. Quand on dit « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre et sur la terre, dans la terre de ma chair, comme au ciel, apprends-moi à me dépouiller de ma volonté propre. » Il y en a tellement qui... Vous voyez, on peut réciter le Notre Père en disant les mots du Notre Père, mais presque inconsciemment, si vous voulez, dans notre pensée, on dit « Seigneur, que ma volonté soit faite, quoi, hein. Au ciel comme sur la terre, d'ailleurs. » Voilà. Une autre affirmation, et elle est ici d'un auteur beaucoup plus contemporain, c'est Monseigneur François-Xavier Nguyen Van Thuan, qui était emprisonné au milieu de 1500 déportés dans la misère la plus totale. « C'est vraiment ici, Seigneur, qu'est ma cathédrale. » Il était évêque. « C'est ta volonté, c'est donc mon choix. » C'est ta volonté, c'est donc mon choix. » Voilà, ces petites affirmations nous permettent d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Quelle est la volonté de Dieu sur nous? Parce que, effectivement, dire le Notre Père et arriver à cette demande, Seigneur, Père, surtout Père, hein, il ne faut pas simplement dire Seigneur, il ne faut pas simplement dire mon Dieu, mais il faut dire Père. C'est la volonté d'un Père. Ce n'est pas la volonté d'un potentat. Ce n'est pas la volonté d'un Dieu qui veut forcément nous écraser et nous broyer dans la souffrance. C'est la volonté d'un Père. Quelle est la volonté de ce Père sur nous? Ici, je reprendrai ce qu'a très bien exprimé saint Thomas d'Aquin. Si vous avez pu vous procurer le petit livre, vous verrez que je n'invente pas grand-chose, finalement. Mais... je vous permets au moins de vous repérer dans les grandes lignes théologiques. La première volonté de Dieu sur nous, et peut-être la plus ultime, c'est tout simplement la vie éternelle. Alors, on l'a bien sûr dans l'Évangile. Ce désir de Dieu, ce désir intense, vous l'avez dans l'évangile de saint Jean au chapitre 10, quand le Christ se présente comme le bon pasteur, hein, qui donne sa vie pour ses brebis. Alors vous avez cette citation très facile à retenir, Jean 10:10, hein, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie éternelle. Cette phrase est vraiment lumineuse, hein, puisqu'elle nous éclaire tout de suite sur non seulement notre condition présente, parce que vous savez, nous, quand nous formulons nos prières, quand nous disons le Notre Père, Nous le disons au cours d'un chapelet, nous le disons au cours de la messe, nous le disons dans notre prière du matin, dans notre prière du soir, nous récapitulons ce qu'a été notre journée, nous offrons ce qu'elle va être, et nous voyons, nous vivons au ras de terre, si vous voulez, voyez, à ras de terre. Et on dit, bah, Seigneur, que ta volonté soit faite, là, dans cette journée qui arrive, dans cette journée qui est achevée. Mais voyez ce que profondément le Seigneur veut, c'est avant tout pour nous la vie éternelle. Donc ça nous donne tout de suite une vision au-delà de cette vie terrestre. Si le Seigneur est venu, si Jésus, le Christ, est venu, c'est pas simplement pour les besoins des hommes sur terre. On le saurait si le paradis était terrestre et si le Seigneur venait bâtir son royaume sur la terre. N'oubliez pas ce qu'a dit la Vierge Marie à Sainte Bernadette. Ce n'est pas le bonheur de ce monde que je veux vous donner, c'est le bonheur de l'autre. Et c'est pas simplement, la Vierge Marie ne dit pas c'est pas le bonheur en ce monde, elle dit ce n'est pas le bonheur de ce monde, c'est-à-dire ce n'est pas le bonheur selon les valeurs de ce monde, mais le bonheur de l'autre, en ce monde, mais de l'autre. Et Sainte Bernadette, on le verra un petit peu, je crois que j'ai repris une petite affirmation de Bernadette quand elle est à Nevers, elle va souffrir beaucoup. Elle va, dans ses souffrances, se souvenir de la grotte, se souvenir de ce dont elle disait, la grotte c'était mon ciel à moi. Et c'est ce qui l'aidera justement à tenir dans les souffrances, mais dans une souffrance offerte, offerte pour les pécheurs. Et c'est parce que cette souffrance est offerte et unie à la volonté de Dieu que la Vierge Marie lui offre le bonheur de ce monde, le bonheur de l'autre. Incompréhensible pour ce monde. La deuxième chose que le Seigneur veut pour nous, la volonté de Dieu sur nous, c'est l'observation des commandements. L'observation des commandements, je vous propose de vous souvenir de l'évangile, de la rencontre du jeune homme riche avec le Seigneur. Je reviendrai sur cet évangile parce qu'il y a ici une rencontre extraordinaire entre ce jeune homme qui lui pose la question de savoir ce qu'il faut faire. Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur commence à lui donner une réponse presque basique. Une réponse que tout homme religieux et tout juif pieux connaît, tu connais les commandements. Donc, observe les commandements. Ce qui serait intéressant, c'est d'analyser quels sont les commandements que le Seigneur donne au jeune homme riche. Enfin, riche, je ne sais pas, mais en tout cas au jeune homme, qui avait des grands biens. Et après, dans un deuxième temps, il lui dit... Eh bien, si tu veux être parfait, alors viens, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Bon, on reviendra là-dessus. Mais la deuxième chose que le Seigneur veut, c'est vraiment l'accomplissement des commandements de Dieu. Et des commandements cités, et il cite le décalogue. Ça veut donc dire qu'une personne qui, même... C'est important pour nous dans notre relation et dans notre dialogue avec nos frères aînés, comme le dit Jean-Paul II, le peuple d'Israël, le peuple juif qui connaît les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu honores ton père et ta mère, etc. etc. Et il semblerait que pour le Seigneur, déjà, cela suffise pour accomplir la volonté de Dieu et entrer dans la vie éternelle. On est ici dans l'ordre des moyens. Saint Augustin dit une petite chose là-dessus. Celui qui t'a créé sans toi ne te justifiera pas sans toi. Celui qui t'a créé sans toi, ton Créateur, ne te justifiera pas, ne te rendra pas juste sans toi, c'est-à-dire sans le concours de ta foi et sans cette obéissance à ce que Dieu veut. Il y a donc un engagement de notre liberté dans le salut. Il y a une troisième chose que le Seigneur désire ardemment pour nous, c'est notre sanctification. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui, sans doute par humilité, ou peut-être, disons pas par humilité, parce que ça n'en est pas vraiment, par modestie, disent, oh, vous savez, il y a des grandes figures de saints, mais la sainteté, c'est peut-être pas forcément pour moi. Eh bien, on se trompe quand on dit ça. Nous devons désirer la sainteté parce que le Seigneur la désire pour nous. Ça semble très, très audacieux, mais c'est pas du tout un manque d'humilité. Parce qu'à ce moment-là, la Vierge manquerait d'humilité. Parce que tous les saints manqueraient au moins d'humilité. Mais nous devons désirer la sainteté. Désirer la sainteté, c'est désirer nous conformer à la volonté de Dieu. C'est désirer vraiment ce que Dieu veut pour nous. C'est désirer entrer dans le plan de Dieu. Comme le disait Bossuet, il a écrit un tout petit traité là-dessus. Sur, peut-être qu'il l'a écrit avec une petite pointe d'humour, mais il a écrit un traité sur l'ambition. L'ambition, et il montre ce qu'est la véritable ambition chrétienne. Il y a une ambition chrétienne. Une ambition chrétienne qui est ce désir de la sainteté, qui est aussi un désir d'humilité. Un désir de grandir dans les vertus chrétiennes. C'est le désir de la charité, c'est le désir de la foi, le désir de l'espérance, de l'humilité, etc., etc. Notre sanctification. Voilà ce que dit encore saint Augustin, mais cette fois-ci dans la lettre à Proba dont je vous avais déjà parlé. Quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pour nous que nous demandons une telle obéissance, afin que sa volonté soit faite en nous comme elle est faite au ciel par ses anges. Alors, peut-être que cette parole de saint Augustin fait qu'on a l'impression de se répéter, mais on avance quand même. Parce que vous voyez ce que dit saint Augustin, quand nous disons que ta volonté soit faite, c'est pour nous que nous demandons une telle obéissance, afin que sa volonté soit faite en nous. En nous, par nous. Nous avons à prendre part à ce que Dieu veut. Et là, vous voyez, nous arrivons au cœur même de notre réflexion, de notre méditation. Comment faire la volonté de Dieu et être pleinement libre? Quelle est où se situe la place de notre liberté quand on dit que ta volonté soit faite? Se pose la question à ce moment-là qui est celle de la providence. Alors, je ne peux pas développer ici toute une réflexion magistrale sur la providence, c'est impossible, en quelques minutes. Je vais donc simplement vous laisser quelques pistes de réflexion. Et à la fin de cette méditation, à la fin de ce cours, je vous donnerai encore des conseils de lecture que j'ai utilisés tout simplement pour vous parler ce soir. La question de la providence, il faut commencer par voir quelles sont les fausses conceptions de la providence. Les fausses conceptions qui peuvent, si vous voulez, traîner un peu dans les esprits même chrétiens, même catholiques. La première fausse conception, c'est la croyance au destin. C'était écrit, il fallait qu'en sortant de Saint-Louis-d'Antin, je glisse sur cette peau de banane. Et mon père, si je n'avais pas glissé sur cette peau de banane, je ne me serais pas converti. Voilà. Alors, le « il faut », vous voyez, ça nous entraîne très loin. Bon, j'espère quand même que tous les fidèles de Saint-Louis-d'Antin ne glissent pas sur des peaux de banane. Mais c'est toute la différence entre la tragédie et le drame. La tragédie grecque et le drame chrétien. Dans la tragédie grecque, vous voyez Œdipe, il fallait que Œdipe tue son père, il fallait que Œdipe épouse sa mère, il fallait qu'Œdipe finisse aveugle. Voilà. C'était écrit. En fait, la connaissance et la sagesse de Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre, la connaissance et la sagesse de Dieu sur les événements du monde, qui est capable de prévoir les événements du monde, ne supprime pas le caractère libre de nos actes libres que nous poserons dans l'avenir. Il n'y a pas de tragédie chrétienne, mais il y a un drame chrétien. Le drame exprime l'enjeu, le sérieux de notre liberté, de l'engagement de notre liberté. Alors forcément, là, j'ouvre des pistes de réflexion. Il nous faudrait réfléchir sur l'attitude des apôtres, des rencontres du Christ, et surtout l'attitude des apôtres au fur et à mesure où le Christ va vers l'accomplissement de sa passion. Tous l'abandonnèrent. Bon. Parmi ceux qui l'abandonnent, eh bien, il y en a un qui le trahit et il y en a un autre qui le renie. Et c'est toujours la question que l'on entend. Vous voyez, mais si Jésus savait que Judas allait le renier, pourquoi l'a-t-il choisi comme apôtre? Et précisément, une des mystiques du XXe siècle dit ceci, c'est précisément parce que Judas avait besoin, lui plus qu'un autre, de connaître l'amour du Christ, au plus près, au plus proche, que Jésus l'a choisi. Et qu'en même temps, il lui a laissé sa liberté. Bon, ce sont des pistes. Tout cela sont des pistes de réflexion. Mais vous pourriez relire quand même l'évangile de Saint Jean. Dans l'évangile de Saint Jean, vous avez ces deux attitudes, l'attitude de Judas et l'attitude de Pierre. Quand je réfléchis à l'attitude de Judas, je trouve quelque chose d'assez étonnant, d'assez extraordinaire. C'est qu'il faut bien voir, bien se représenter la scène du Jeudi Saint. Dès le matin, les préparatifs de la Pâque se font. Le repas pascal dans le peuple juif, c'est un repas extrêmement festif. C'est un repas qui est un mémorial de la sortie d'Égypte, de la libération à main forte par la puissance de Dieu de l'esclavage. Voilà, on ne prend pas n'importe quel couvert, on ne prend pas des assiettes en grès et des coupes en grès, on prend ce qu'il y a de plus beau. Bon. C'est donc un repas qui se prépare. Les apôtres le préparent. Et le soir, si vous êtes allé à Jérusalem, qu'on vous fait visiter ce qui est très probablement le Cénacle, on voit comment les apôtres sont réunis autour du Christ, quelques disciples, il y a du monde. Et le Seigneur dit, je vous le dis, l'un de vous me livrera, et quand il voit Judas, qu'il est en face de Judas, il n'est pas tout seul en face de Judas, il y a tout le monde autour, et Jésus a cette parole étonnante, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » On a l'impression que Jésus pousse Judas à la faute. « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Il reste donc une... comment dire ? Jésus respecte la liberté de Judas. Et pourquoi dit-il cela ? Je me suis longtemps posé la question. Parce que Jésus aurait très bien pu, connaissant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, aurait très bien pu dire aux autres apôtres, « Maintenant, vous bouclez toutes les portes, et il y en a un qui ne doit pas sortir, c'est Judas. » On aurait pu le penser, hein ? Bon. Eh bien non, il fait le contraire. Il respecte la décision. Parce que, d'abord, premièrement, Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il se fait péché pour nous. Il porte sur lui tous les péchés. Et y compris le péché, sans doute, le plus terrible, qui est celui de la trahison, du traître. Il accepte cette traîtrise. Mais en même temps, en disant cela à Judas qui lui a dit « Serait-ce moi, Seigneur, comme les autres ?» Et Jésus lui dit « C'est toi qui le dis. » Et Jésus qui lui dit « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Pourquoi dit-il cela ? Parce qu'au fond, c'est là où on voit jusqu'où va l'amour de Jésus. C'est qu'il prend sur lui le péché de la traîtrise et qu'en même temps, il veut, dans les profondeurs de la conscience de Judas, qu'il se souvienne de cette parole. Que finalement, s'il l'a livrée au Sanhédrin, parce qu'il avait certainement des raisons d'autres, puisqu'il faisait partie des Zélotes. Il aurait aimé que le Seigneur fasse éclater son règne, etc. Donc il voulait sans doute une confrontation claire et nette avec les chefs du temple, chefs religieux. Jésus veut que Judas se souvienne de cette parole pour que Judas se dise « Il m'a permis de le trahir. » Et donc je pourrais revenir lui demander pardon. Vous voyez, c'est une parole de salut pour Judas. Jésus aura été jusqu'au bout avec celui qui le trahit. Il ne dit pas ce que tu as à faire, fais-le vite, simplement pour accepter le destin. Il lui dit, voilà, ça te brûle de me trahir. Et d'ailleurs, Judas voulait une confrontation. Après, sachant quelle va être la tournure des événements, il va aller rendre la monnaie, il va aller rendre les 30 deniers. Hein. Bon. Donc, c'est pas véritablement ce qu'il voulait. Mais voyez, jusqu'où va Jésus ? Et c'est la même chose pour Pierre. Pierre, qui était encore 24 heures avant, deux jours avant, dit il n'est pas question qu'on te laisse monter à Jérusalem, enfin c'était la semaine précédente. Et Jésus lui avait dit passe derrière moi, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, celles du Père. Et le jeudi soir lui-même, Pierre est ardent pour défendre son maître et son Seigneur. Et Jésus lui dit, mais tu sais, Pierre, l'heure va être si redoutable que dans la nuit, avant que le coq ne chante, avant demain matin, tu m'auras renié trois fois. Pourquoi est-ce qu'il le dit ? C'est pas pour l'écraser. C'est pas pour lui dire, je sais de toute façon ce que tu vas faire. C'est pour que Pierre s'en souvienne au moment du reniement, après le reniement. Pierre va se souvenir de cette phrase et il va pleurer amèrement. Il y en a un qui se souviendra peut-être de la phrase que Jésus lui avait dite, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. J'accepte ta décision. » Mais qui va aller se pendre, qui ne reviendra pas demander pardon, qui ne se sentira peut-être pas digne du pardon. Et l'autre qui va verser les larmes du repentir, qui ne saura pas où se mettre, hein, d'ailleurs. Et il faudra attendre la résurrection. Et les trois questions du maître, Pierre, m'aimes-tu ? Donc, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de tragédie, il y a un vrai drame de la liberté. La deuxième fausse conception de la providence, c'est le panthéisme. Je ne m'arrête pas à tout. La troisième fausse conception, c'est le providentialisme. Alors, le providentialisme, c'est l'attitude de... Alors, elle peut être répandue chez les chrétiens, chez les catholiques, chez les personnes, vous savez, un petit peu trop spiritualisantes, qui voudraient voir la volonté de Dieu partout et qui voudraient la comprendre. C'est-à-dire que pour certains, il faudrait trouver une raison à tout ce qui arrive. Il faudrait toujours trouver une raison au mal. C'est naturel, parce qu'on ne se résout pas au mal. On ne peut pas se résoudre à la souffrance. On veut comprendre. On a besoin de comprendre. Alors, ce qu'on appelle le providentialisme, c'est l'attitude de celui, de celle, qui veut toujours trouver une raison à ce qui arrive. Toujours trouver une raison au mal. Et c'est difficile d'accepter que quelquefois nous n'ayons pas de raison. Alors, peut-être, sans doute, et là je crois qu'il faut prendre toutes les précautions possibles, quelques années après une épreuve, tel ou tel pourra se dire « Je vois comment Dieu a permis cet événement ». Je vois comment, finalement, cet événement m'a fait grandir. Cet événement était pour un bien. Mais il faut avoir beau, faut être très précautionneux avec ça. Parce qu'on ne comprend pas toujours. Et surtout, il ne faut surtout pas en faire la leçon aux autres. Et ne pas dire... Ah mais t'as des épreuves. Ah non mais t'inquiète pas. Un jour tu vas comprendre. C'est pas pastoral du tout ça. Et c'est même, vous voyez, non, c'est pas l'attitude. Parce que il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprenne pas. Que les desseins de Dieu ne nous échappent. C'est ce que dit Blaise Pascal, la parole avec laquelle j'ai commencé cette réflexion. Il est normal que Dieu soit mystérieux pour l'homme. L'homme est déjà un mystère à lui-même. Nous, on ne se comprend déjà pas. Donc vouloir comprendre tous les desseins de Dieu, de sa providence, peut cacher un terrible orgueil. Alors je passe sur les attitudes presque un peu pathologiques de ceux qui entendent des voix partout, qui ont des locutions. Ils ont bien de la chance, remarque. La première chose, c'est de voir, de discerner dans le concret de nos vies et s'enfuir le concret de nos vies, où est la volonté de Dieu. Accepter de croire sans toujours comprendre Dieu qui dirige toute chose est une attitude plus grande, cependant, que de vouloir toujours trouver une raison à tout, parce que c'est une attitude qui fait grandir en nous la confiance filiale. C'est l'attitude d'Abraham, quand le Seigneur lui dit « Va, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays que je t'indiquerai au futur ». Au futur, ça veut dire que c'est au fur et à mesure de la marche que le Seigneur guide Abraham. Il ne lui dit pas « Voilà où tu vas aller ». Il dit « Va, mets-toi en route et je t'indiquerai ». Un prédicateur qui disait ceci dans une de ses prédications, quand il était petit, il aimait beaucoup les portes, vous savez, les portes automatiques. Il s'amusait à avancer vers les portes automatiques et les portes, il les voyait s'ouvrir toutes seules. Et alors son grand jeu, c'était de courir le plus vite possible pour savoir si la porte allait s'ouvrir. Et bien, le Seigneur fait un peu comme nous. Il dit, avance, la porte va s'ouvrir. Avance. Et nous, nous disons, j'attends que la porte s'ouvre et j'avancerai. On veut savoir, et alors à ce moment-là, on avance. Et le Seigneur, lui, il nous dit, fais-moi confiance. Avance, la porte va s'ouvrir. Troisième erreur, le quiétisme. Je vous donne un autre nom, beaucoup plus simple, la paresse. La paresse. Sous prétexte que Dieu s'occuperait de tout, alors nous n'aurions qu'à attendre passivement qu'il agisse. Tel événement m'arrive, telle chose m'arrive, ah ben de toute façon c'est le Seigneur. Voilà. Alors, le quiétisme, qui a été une des tentations du XVIIIe siècle, dans les conflits qui opposaient les jésuites à Port-Royal, avec la querelle sur la nature et la grâce, donc sur la liberté, XVIIIe siècle. Le quiétisme offre une réponse déjà assez simple, mais là encore je taille au couteau et c'est simplement une piste. C'est de se dire que si Dieu nous a créés intelligents et prévoyants, c'est pas pour avoir une tête de linotte. Nous avons à vivre à la hauteur de la liberté que Dieu nous a donnée. Dieu a remis l'homme à son conseil, dit le psalmiste. Dieu a remis l'homme à son conseil. Il veut que nous n'échappions pas aux responsabilités de notre devoir d'État. N'oubliez pas cette très belle phrase qui résume tout ce que je vous dis là-dessus, de saint Ignace de Loyola. Prie comme si tout dépendait de Dieu. Agis comme si tout dépendait de toi. Prie comme si tout dépendait de Dieu, et quand tu as prié, agis comme si tout dépendait de toi. Alors, à partir de là, une fois qu'on a vu ces fausses conceptions, même si c'est très rapide, il faut tout de même apprendre à faire la volonté de Dieu. Apprendre à faire la volonté de Dieu. D'abord, Si vous voulez, voilà comment j'organise mon propos pour qu'il soit assez simple. Premier point, on peut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi, par moi. C'est l'évangile du jeune homme riche qui cherche à faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu en nous, faire la volonté de Dieu par nous, c'est-à-dire nous ordonnons notre liberté à ce que Dieu veut, c'est d'abord observer les commandements. Et c'est la première partie de l'évangile du jeune homme riche. Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle en partage? Le Seigneur lui dit, tu connais les commandements. Observe les commandements. Et ça, d'une certaine manière, cette réponse, elle convient à tout homme. À tout homme, il est demandé de former sa conscience morale afin d'agir selon la droite raison à la lumière des commandements de Dieu, de la loi naturelle. Mais ça, le jeune homme l'a fait durant sa jeunesse. Et vous remarquez une toute petite précision. Dans l'évangile de saint Marc au chapitre 10, verset 25, si je ne me trompe pas. Alors, Jésus posa sur lui son regard et se prit à l'aimer. Jésus aime, admire. Il admire cet homme qui, par son éducation, par son intelligence, par sa piété, par sa droiture d'esprit, eh bien, fait le bien. Il y a une admiration de Jésus pour tout homme droit. Alors, deuxième chose, le Seigneur va plus loin. Voyant que cet homme est disposé, et que, en suivant les commandements, il a déjà la vie éternelle, lui propose un autre chemin. Et c'est ce qu'on appelle le chemin, non plus des commandements, mais des conseils évangéliques. Si tu veux, c'est à lui de décider. Si tu veux être parfait, alors va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Tes biens, donne-les aux pauvres. Pauvreté, viens, c'est-à-dire quitte ta maison, quitte ta parenté, quitte tes affections, chasteté, et suis-moi, obéissance. Ce sont ce qu'on appelle les trois conseils évangéliques qui sont propres à la vie religieuse. Pauvreté, chasteté, obéissance. Ils ne sont pas proposés à tous. Ils sont proposés à ceux sur lesquels le Seigneur pose un regard particulier. Alors, le Seigneur posa son regard sur lui et l'aima et lui dit, voyez, c'est le fruit de son amour, si tu veux être parfait. C'est un appel, mais un appel en douceur, un appel qui ne contraint pas, auquel il va falloir répondre, par rapport auquel il va falloir se décider. Et le jeune homme riche, à ce moment-là, s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas en partage la vie éternelle, mais ça veut dire que cette voie plus haute, plus radicale, plus évangélique, à la suite du Seigneur, il n'y est pas encore prêt. Il y a des conseils pour chacun de nous selon chacun de nos états de vie. Relisez pour cela le tout premier chapitre, l'introduction du très, très bon traité de saint François de Sales qui s'appelle l'introduction à la vie dévote. L'introduction de l'introduction, elle est magnifique, extraordinaire d'équilibre. On ne prie pas, on n'a pas une vie religieuse, comme le dit saint François de Sales, il est inutile de demander au général d'armée d'avoir la vie religieuse d'un évêque. Il est inutile de demander à une mère de famille d'avoir la vie religieuse d'une sœur contemplative. Cette femme mariée qui aurait tant envie de faire une veillée d'adoration, mais qui sait que si elle délaisse sa famille, rien n'ira, eh bien, elle doit d'abord être à son devoir d'État. Le retour au devoir d'État, c'est ça qui fait notre sanctification. Et ce sont ces conseils qu'il faut suivre. La volonté de Dieu, elle s'exprime pas uniquement entre le cœur et la sacristie. C'est dans ce que je dois faire, là où le Seigneur m'a mis, ou m'a placé. Alors on peut dire que voilà, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi, que ta volonté soit faite par moi. Deuxième aspect de la question, que ta volonté soit faite mieux que moi je ne le pense, alors même que moi je me rebelle d'une certaine manière à cette volonté. On le voit bien déjà dans la vie du Christ, il y a un conflit, ce qu'on appelle le conflit des volontés dans le Christ au moment de Gethsémani. Je vous cite ici le catéchisme de l'Église catholique. C'est dans le Christ et par sa volonté humaine que la volonté du Père a été parfaitement et une fois pour toutes accomplie. Jésus a dit en entrant dans ce monde, Hébreux 10, 7, « Voici, je viens faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus seul peut dire « Je fais toujours ce qui lui plaît. » Jean 8, 29. Dans la prière de son agonie, Jésus consent totalement à cette volonté. « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Luc 22, 42. Voilà pourquoi Jésus s'est livré pour nos péchés selon la volonté de Dieu. C'est en vertu de cette volonté que nous nous sommes sanctifiés. Il s'agira donc pour nous d'unir notre volonté à celle du Christ pour accomplir son dessein de salut pour la vie du monde. Alors vous le retrouverez, c'est dans le catéchisme au numéro 28-24. Voyez, dans le Christ Jésus, il y a un état de conflit à Gethsémani. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La volonté naturelle, la volonté humaine du Christ, naturellement, combat l'épreuve, ne veut pas l'épreuve, veut résister à l'épreuve. Il y a donc ce conflit et en même temps, vous voyez, dans cette lutte, la volonté du Seigneur, la volonté, la personne divine, dit « Mais Seigneur, ta volonté plus que tout. » Voilà, cette union des volontés, comment la comprendre si ce n'est la seule chose qui peut nous la faire comprendre? C'est la lumière de l'amour. Seigneur, je veux ce que tu aimes. Père, je veux ce que tu aimes, ce que tu veux, parce que ce que tu veux, c'est le salut du monde. Et que si le salut doit passer par, pour moi, en portant le fardeau du péché du monde, eh bien, c'est ce que je veux. difficile lutte entre le oui à la volonté de Dieu. Et dans notre vie, c'est pareil. La lutte entre le oui à la volonté de Dieu et le oui à ce que nous croyons être la volonté de Dieu. Qui tient souvent, vous voyez, cette difficile lutte qui vient de notre ignorance. Le Christ nous enseigne qu'on peut dire oui, que ta volonté soit faite, dans la lutte et dans le déchirement. Ce que Jésus va vivre à Gethsémani. Dire oui à Dieu, quoi qu'il en coûte. En disant non au reste, en disant non à tout ce qui n'est pas Dieu. De fait, cela nous amène à considérer comment dire oui à la volonté de Dieu dans les épreuves. Et là, il faut se référer à l'enseignement des saints. Et ce qu'on a, les saints nous enseignent la sainte indifférence. La sainte indifférence à l'égard de la volonté divine, ça n'est pas le fait de dire bah, de toute façon je m'en moque, c'est comme ci et c'est comme ça. Non. C'est la sainte indifférence pour entrer davantage dans le mystère de l'amour rédempteur. C'est l'amour rédempteur. C'est pas n'importe quel amour. C'est l'amour qui veut sauver le monde et qui sait que parce qu'il veut le sauver, eh bien, il veut prendre sur lui l'injustice du péché. Vous sentez bien que là, il faudra un cours sur le péché originel. J'en ai pour 50 cours là. Alors plusieurs exemples sont tirés de situations diverses sont mentionnés dans le livre du père d'Escouvemont, j'en vous en parlerai à la fin. Je retiens ici quelques exemples parce que les exemples des saints, en raison même de la sainteté de leurs actes, valent beaucoup mieux que de longs développements. La volonté de Dieu dans la maladie. Frédéric Ozanam, une lettre de Frédéric Ozanam remarquable. C'est une prière de Frédéric Ozanam à Dieu. Mon Dieu, je viens si vous m'appelez. Il a 40 ans et il est proche il est emporté par la maladie. Je viens si vous m'appelez et je n'ai pas le droit de me plaindre. Vous m'avez donné 40 ans de vie. Que les miens ne se scandalisent point si vous ne voulez pas faire aujourd'hui un miracle pour me guérir. À l'entrée de ma carrière, quand j'étais arrêté tout à coup par une maladie de la gorge, ne m'avez-vous pas guéri ? Ne m'avez-vous pas donné la joie de publier ce que je croyais la vérité ? Enfin, il y a 5 ans, ne m'avez-vous pas ramené de bien loin ? Et ne m'avez-vous pas accordé ce délai pour faire pénitence de mes péchés et pour devenir meilleur ? Ah, toutes les prières qu'alors on vous adressa pour moi furent écoutées. Pourquoi celles qu'on vous fait aujourd'hui seraient-elles perdues ? Mais peut-être, Seigneur, vous les exaucerez d'une autre manière. Vous me donnez le courage, mon Dieu, la résignation, la paix de l'âme et ces consolations inexprimables qui accompagnent votre présence réelle. Vous me ferez trouver dans la maladie une source de mérite et de bénédiction. Vous les ferez retomber sur ma femme, mon enfant, sur tous les miens, à qui mes travaux auraient peut-être moins servi que mes souffrances. La volonté de Dieu dans les blessures causées par le prochain. Alors ça, c'est pas facile. Quand on est blessé, irrité, contrarié, accusé, il y a cette très belle exhortation de Saint Jean de la Croix à ces frères qui vivent la vie communautaire. Parce que la vie communautaire, c'est vraiment l'épreuve du feu. Hein. Enfin, quand on a une communauté comme celle de Saint-Louis-d'Antin, tout va bien. Et voilà ce que dit Saint Jean de la Croix, certainement peut-être à un novice. Commence par, parce qu'il y a la vie communautaire familiale aussi, hein, il y a etc. Commence par bien comprendre que tu n'es venu au monastère que pour être travaillé, pas pour travailler. Tu n'es venu que pour être travaillé, exercé par tous ceux qui l'habitent. Donc, en vue de t'affranchir des imperfections et des troubles dont la diversité des caractères et des façons de procéder peut être pour toi l'occasion, et afin de savoir tirer profit de tout événement, regarde tous ceux qui sont dans le couvent comme des artisans destinés à te travailler, les uns par des paroles, les autres par des œuvres, d'autres par jugement intérieur contre toi. Et cela n'est que l'exacte vérité. Mets-toi bien dans l'esprit que tu dois te soumettre à leur coup, comme la statue s'abandonne au travail du sculpteur, du peintre ou du docteur. Autrement, tu ne surmonteras jamais ta sensualité et tes répugnances. Tu ne sauras pas te conduire comme il convient avec tes frères. Tu n'obtiendras point la sainte paix. Tu n'éviteras pas beaucoup de maux et d'inconvénients. Troisième, je dois aller vite, les persécutions. La volonté de Dieu dans les persécutions. Il y a le testament de Saint Louis, roi de France, à son fils Philippe qui deviendra Philippe le Hardi. Si notre Seigneur t'envoie persécution, maladie ou autre souffrance, tu dois la supporter débonnairement et tu dois l'en remercier et lui savoir bon gré. Car il faut comprendre qu'il l'a fait pour ton bien. De plus, tu dois penser que tu as mérité ceci, et encore plus s'il le voulait, parce que tu l'as peu aimé et peu servi, et parce que tu as fait beaucoup d'autres choses contre sa volonté. Si notre Seigneur t'envoie prospérité, santé du corps ou autre chose, tu dois l'en remercier humblement, et puis prendre garde qu'à cause de cela, il ne t'arrive pas de malheur, causé par ton orgueil ou par une autre faute. Car c'est un très grand péché de guerroyer notre Seigneur de ses dons. Et vous avez cette très belle phrase de Sainte Bernadette qui dit tout. « Mon Dieu, elle est sur son lit à Nevers. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. J'accepte de souffrir puisque vous le voulez. » Comment vivre cette demande, si vous m'accordez 5 minutes, comment vivre cette demande, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? En demandant à l'Esprit Saint le don de science. Quelques mots sur ce don, qu'on peut appeler aussi don de connaissance de Dieu. De connaissance de la volonté de Dieu. Je vous donne 2-3 petites choses. Le don de connaissance nous fait prendre conscience qu'à la différence des choses créées, éphémères et imparfaites, Dieu seul peut combler les aspirations présentes dans le cœur de l'homme. Et voyez, le cœur de l'homme, c'est quoi ? Vous le verrez dans le catéchisme de l'Église catholique. Le cœur de l'homme, c'est le lieu le plus intime de ses décisions, des choix les plus profonds qu'il fait pour toute sa vie. Dans notre cœur, nous décidons pour ou contre Dieu. Et donc, demander à l'Esprit Saint le secours du don de science, don de connaissance, c'est pour apprendre à connaître la volonté de Dieu et comprendre comment Dieu seul peut combler les aspirations de mon cœur. Et de fait, le don de science va fortifier notre espérance. L'espérance, espérer, qu'est-ce que c'est? C'est vivre un total abandon entre les bras de Dieu. Le don de connaissance, le don de science, nous rend capable d'envisager, d'évaluer les événements, non pas à partir des seuls critères humains, mais à la lumière de la providence divine. L'Esprit Saint inspire et nourrit nos pensées, il oriente nos actes de manière à nous faire vivre une existence qui tire sa joie du projet de Dieu sur nous. Découvrir peu à peu, en fait, voyez, quand vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi, par moi, mieux que moi. Vous dites, Seigneur, fais-moi découvrir que ta volonté, dans ce que je traverse, dans mes événements de ma vie, que ta volonté est quand même une volonté d'amour. Et comment moi, en offrant toute ma vie, je m'unis à ton dessein qui est immense, le salut du monde. Vous savez, l'Esprit Saint est donné le jour de la Pentecôte à toute l'Église. Et pourquoi elle est donnée à l'Église? Pourquoi est-il donné à l'Église? Mais parce que sans l'Esprit Saint, l'Église ne peut pas offrir le sacrifice eucharistique. Ce n'est pas nous qui pouvons offrir le sacrifice eucharistique. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église, vivifie l'Église, rassemble l'Église. Et l'Esprit Saint permet aux fidèles d'offrir le sacrifice du Christ, de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église. Et non seulement permet d'offrir le sacrifice de l'Église, mais de nous offrir nous-mêmes dans ce sacrifice, de nous unir en sacrifice d'agréable odeur. Quand vous venez à la messe, vous offrez toute votre vie dans la patène, dans le calice. Une vie aussi humble soit-elle, cachée, comme celle de Bernadette Soubirous dans les derniers jours sur son lit d'hôpital où elle ne pouvait pas faire grand-chose. Marthe Robin, il n'a pas fait grand-chose, qui est resté sur son lit pendant 50 ans, s'unissait chaque semaine, vivant de l'Eucharistie, s'unissait d'une façon si parfaite au sacrifice du Christ, que rien de ses souffrances n'a été perdu. Mais que précisément cette union a été source de grâce pour l'Église, par les foyers de charité bien entendu, puis par tant d'autres choses. Et donc le don de science nous aide à vaincre la tristesse spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la tristesse spirituelle? C'est comme une tourmente existentielle, une crise qui n'est pas tant matérielle que spirituelle. Qu'est-ce que je fais là? Que valent mes engagements? À quoi bon ma fidélité? Qu'ai-je encore à espérer dans la vie? La tristesse spirituelle envahit toute la personne, faisant naître en elle un sentiment de désenchantement et de dépit. L'envie lui gagne de fuir et d'abandonner tout ce qui a été commencé. L'espérance fait place à la désespérance. Le blues de l'âme qui ronge de l'intérieur les projets qui jusqu'alors avaient donné sens à la vie. Eh bien, il faut penser à Abraham. Abraham, à un moment donné, est passé par ce blues de l'âme. Le Seigneur lui avait fait des tas de promesses. Il se retrouve en plein désert et il voit que sa femme, finalement, n'est pas enceinte. Il passe vraiment par une tourmente, par une tristesse intérieure. Et puis voilà que trois messagers arrivent dans la brume du désert, le Seigneur, Abraham, on dit, la Bible, Abraham en vit trois et il en adora un seul. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter. Alors le Seigneur s'arrête et il le confirme dans sa vocation. Tu auras une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le don de science qu'il faut demander nous aide à vaincre la tristesse spirituelle. Voilà quelques conseils de lecture que je vous donne ici pour terminer. Le premier, c'est « Peut-on croire à la Providence ?» de Pierre d'Escouvement. C'est en vente là, maintenant, et puis ce sera en vente à la librairie. Le deuxième, il est à la librairie aussi, Ludovic Lécurie, « Les sept dons du Saint-Esprit ». Vous retrouverez ce que je vous ai dit. Le troisième, bien sûr celui dont je vous ai parlé la dernière fois, de « L'Eucharistie et la Trinité » de Bernadot. Pour l'instant, je crois qu'on en a un, mais on va en avoir d'autres. Et le quatrième, que vous trouverez aussi à la librairie, c'est sur la liberté intérieure de Jacques Philippe. Voilà. J'ai été un petit peu plus long que d'habitude, je m'en excuse, je vous demande pardon, et je vous dis à la semaine prochaine.